Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
Mad Men, les nouvelles routes de l'Amérique. Bonjour à tous et toutes, très heureux de vous retrouver en direct des studios de Fréquence Protestante pour déjà la dernière émission de la saison que nous allons consacrer à la série Mad Men, célèbre série américaine créée par Matthew Weiner, diffusée sur la chaîne AMC entre 2007 et 2015 et qui a, au moment de sa diffusion, remis au goût du jour une nostalgie pour les années 60 et leur garde-robe. La série se déroule dans l'univers des publicitaires sur Madison Avenue à New York, où travaillent donc les fameux Mad Men, les Madison Men, mais aussi pour le jeu de mots, les Ad Men, Ad signifiant publicité en anglais. Série en 7 saisons, 92 épisodes au total et un nombre impressionnant de personnages, dont le fameux Don Draper. Un nombre impressionnant aussi de thématiques traitées. Mad Men fait incontestablement partie des séries dont les qualités d'écriture et de réalisation participent d'un âge d'or des séries à Hollywood. Mais de quoi parle Mad Men ? Cette série parle du travail quotidien, où se débattent des personnages ordinaires. Elle parle aussi d'une époque où les rapports sociaux et les rapports de genre sont remis en question. Et de fait, le désir d'émancipation et de réussite de plusieurs personnages féminins dans un monde machiste est au cœur de tous les épisodes. Mad Men parle des ambitions professionnelles et des illusions perdues. Elle parle d'identité. Elle parle de New York et de son opposé, la Californie. Elle parle d'amour, de sexe et de sentiments. À moins que cette série n'évoque en fait la consommation d'alcool sur le lieu de travail, les siestes aux heures de bureau et la compulsion des personnages masculins à épouser leur secrétaire. Pour mon invité Damien Leblanc, Mad Men enregistre les difficultés de la société américaine des années 60 à s'affranchir de nombreux archaïsmes pour emprunter les routes nouvelles de la modernité technique, sociale et culturelle. Bonjour Damien Leblanc.
Bonjour.
Damien Leblanc, vous êtes critique et journaliste cinéma, collaborateur notamment du magazine Première. Vous venez de signer un livre informé et stimulant les révolutions de Mad Men aux éditions Playlist Society en 2017. Les images, mais ceux qui connaissent la série les ont vues apparaître immédiatement avec ce générique, un homme qui tombe d'un immeuble dans une ambiance blanche, étrange. Qu'est-ce que c'est que ce générique ? Que dit-il ?
Alors effectivement, le générique de Mad Men est, permet de s'immerger tout de suite dans l'univers assez unique de cette série. Donc pour aller vite, on voit une silhouette qui entre dans un bureau, qui pose son attaché case, qui a l'air d'être prêt à se mettre au travail, et puis tout d'un coup, tout le décor autour de lui commence à tomber, à s'écrouler. Les tableaux tombent, le mobilier, et cet homme tout d'un coup chute à travers les immeubles new-yorkais. Donc on est en animation, hein, c'est pas des prises de vue réelles, c'est un graphique assez beau d'ailleurs. Et là, il y a de grandes images publicitaires qui sont affichées sur les immeubles new-yorkais. Et lui, il tombe au milieu d'images un peu de bonheur factice. Enfin, c'est vraiment l'Amérique des années 50. Telle qu'on la voit au début de la série, donc il y a des pin-up, des familles américaines, c'est le rêve américain. Et voilà, ce qui est quand même très fort, c'est que lui, il chute, donc c'est assez effrayant. Ces images de bonheur publicitaire qu'il contribue lui-même à créer finalement deviennent très très grandes. Il y a des jambes de femmes, voilà. Et lui, il paraît tout petit au milieu de cet univers qu'il crée, que lui et les publicitaires contribuent à créer. Et donc il tombe. Donc on pense que ça va mal finir, que sa publicité est un peu dépassée par sa création, par son machisme un peu. Et puis à la fin, il semble retomber sur ses pieds, et puis on le voit tranquillement, cette silhouette est assise à un canapé en train de fumer une cigarette. Donc, et c'est là que commence la série, d'ailleurs c'est le premier plan sur Don Draper sera ce plan d'un homme de dos. Donc c'est assez vertigineux et est impressionnant comme début, et mais surtout cet homme qui chute a l'air de se relever et finalement de pouvoir commencer la série tranquillement. Et bon, ça raconte un peu toute l'histoire des 7 saisons.
Donc ils avaient déjà, Matthew Weiner, le showrunner, avait quand même une espèce de vision assez nette, la série étant en quelque sorte annoncée ou synthétisée dans le générique, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous parlez de votre ouvrage, hein, s'intitule « Les révolutions de Mad Men ». Alors de quelle révolution, au pluriel hein, évidemment, de quelle révolution s'agit-il, Damien Leblanc?
C'est d'abord au premier degré, les révolutions que l'Amérique des années 60 a connues, puisque la série, en fait, commence en 1960, enfin, son intrigue, et se termine en 1970. Donc, c'est vraiment 10 ans, avec une forme comme ça de précision historique. Donc, la série se veut, de ce point de vue-là, réaliste. C'est-à-dire qu'on a les grands événements historiques de cette décennie américaine. Donc, la guerre du Vietnam, l'élection de Kennedy, puis l'assassinat de Kennedy, Martin Luther King. Enfin, voilà, tout un tas de faits historiques. Et, ces années 60, aux États-Unis, c'est vraiment, comme le montre la série saison après saison, des années de changement, de transformation, donc qui sont d'abord sociales et sociétales, avec l'émergence des femmes et le recul peu à peu du machisme au sein de l'entreprise. C'est aussi l'arrivée de nouvelles communautés, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a l'émergence des Noirs, qui au départ sont vraiment relégués à la marge dans les premières saisons et qui peu à peu prennent un peu le devant de la scène. Il y a des révolutions économiques aussi, puisque ça, on fera peut-être après. Au départ, cette agence de publicité Sterling Cooper, dans laquelle se passe la série, a l'air florissante, resplendissante. C'est des hommes impeccables qui ont l'air au summum de leur pouvoir. Et petit à petit, cette entreprise va avoir quelques problèmes et va subir toute une politique en fait de rachat, de fusion. Donc économiquement, socialement, tout bouge pendant cette décennie. Et après, le livre parle aussi des révolutions peut-être plus propres à la série. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette série, voilà, les personnages évoluent, leur gestuelle, les rapports entre eux, l'esthétique de la série évolue, ses références, les sensations qu'on peut en avoir. Donc il y a tout un tas de changements, de mutations à l'œuvre, à la fois dans l'intrigue de cette série et dans le ressenti même esthétique qu'on peut en avoir.
Ce qui est intéressant, c'est que Matthew Weiner va intégrer l'idée de révolution et d'évolution dans la série même. C'est-à-dire qu'en fait, elle est presque scindée en deux. Il y a vous me direz si vous êtes d'accord, hein, il y a les trois premières saisons qui dresse le portrait des personnages, le portrait de l'agence, le portrait des années 60 un peu rigide, un peu maniéré, machiste, avec des formes importantes de domination masculine. Et ensuite, la série va casser tout ça, en se calant sur la chronologie des années 60, avec une nouvelle agence, des nouvelles couleurs, des tableaux de style Vasarely. Donc, Matthew Weiner est assez malin pour poser d'abord un décor, mais vraiment longtemps, pendant trois saisons, et tout casser. Il y a des éléments de cet ordre-là, Damien Leblanc ?
Oui, alors tout à fait. C'est vraiment comme ça que moi, je ressens la série. C'est-à-dire que là, c'est très symétrique, en fait. C'est-à-dire que c'est en saison 4, donc la saison vraiment médiane, qui est en plein milieu, que les choses se mettent à évoluer. Et il est vrai que l'univers fictionnel, romanesque des premières saisons est quelque chose de très marqué. C'est-à-dire que c'est vraiment, on a parlé de références littéraires, notamment Fitzgerald, Gatsby le Magnifique. Enfin, on a vraiment quelque chose sur cette Amérique dans les premières saisons, où il y a cette idée, déjà d'un univers où ce sont un peu les mâles blancs qui dominent. On a la rigidité vraiment des années 50 avec il y a le poids des adultères, le poids des secrets, le poids des mensonges, les femmes vraiment reléguées à un rôle très mineur. Il y a surtout cette idée autour de Don Draper qui est vraiment présente dans les premières saisons, que c'est un homme qui en fait pour réussir a dû s'inventer une identité. Et toute la première saison baigne dans ce secret, dans cette espèce de mystère autour de Don Draper, dont on apprend peu à peu qu'il a volé en fait l'identité d'un homme dans la guerre de Corée de 50 à 53. Donc voilà, on a vraiment les premières saisons qui parlent en fait de l'Amérique des années 50 encore, des années 50 qui se terminent, qui s'achèvent. Et selon Matthew Weiner, les années 60 commencent vraiment en fait en en 62-63. Et effectivement, c'est vrai que l'assassinat de Kennedy, la mort de Kennedy en 63, qui est traité à la fin de la troisième saison, que peu à peu, la série se décorsette un peu, si on veut. Que voilà, c'est aussi en saison 3 qu'on commence à avoir la jeunesse qui prend un peu le pouvoir. On passe effectivement de la cigarette et de l'alcool aux consommations de drogue, des nouvelles musiques, et cet univers vraiment de pouvoir des publicitaires mâles new-yorkais, qui avec tous les travers que ça engendre, hein, c'est-à-dire le mensonge, la pression sur les femmes, se met vraiment à éclater en saison 4, où la série devient un petit peu quelque chose d'autre, et quelque chose de presque plus stimulant. Voilà, parce que beaucoup disent préférer les premières saisons aux suivantes, alors que moi, vraiment, je trouve que les dernières saisons sont tout aussi stimulantes. Plus on avance, effectivement, les années 60, avec le Vietnam, les révoltes de la jeunesse...
Les personnages masculins ont du mal à évoluer, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, vous disiez, corsetés, ils sont prisonniers de leur passé. On voit Roger Sterling qui va faire faire casser un deal avec des Japonais parce qu'il les a combattus dans le Pacifique. Don Draper est un peu coincé, quoi. Il est tout le temps en costume cravate. Il se fait gentiment tenser par des espèces de gens un peu bohèmes, des gens beaucoup plus libérés que lui. C'est des hommes qui incarnent des formes d'ancienneté et qui vont devoir se libérer de ça pour pouvoir ne serait-ce que continuer à faire leur métier en réalité. Damien Leblanc.
Oui, totalement. Et c'est vrai que c'est là que dès le début de la série, le rôle des femmes va vraiment être déterminant. Parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand Mad Men commence, on a l'impression qu'on est vraiment au sommet du pouvoir des hommes et que eux, ils ne se remettent pas du tout en question puisque tout a l'air d'aller dans cette entreprise de publicité. Mais, en fait, ils sont déjà un peu ringards. C'est-à-dire que, par exemple, ils font la campagne de Nixon en 60. Ils sont persuadés que Nixon va gagner parce qu'il représente effectivement cette Amérique un peu d'antan, cette Amérique à la papa.
Les valeurs traditionnelles.
Voilà, ouais. Les valeurs traditionnelles, effectivement. Et ils misent pas sur Kennedy au départ, en tout cas les dirigeants de cette agence de publicité. Et donc, ils se rendent pas compte qu'ils sont déjà dépassés par la modernité qui arrive. Et ça va être petit à petit les femmes qui vont notamment les aider à, plus ou moins consciemment, à ce que, effectivement, l'entreprise continue à être performante en comprenant les mutations qu'il y a dans cette Amérique des années 60. Et c'est notamment là le personnage de Peggy Olson, qui est un personnage extrêmement important dans Mad Men, qui, au départ, est une secrétaire de l'agence, donc qui subit des remarques sexistes, machistes de ses supérieurs, qui pensent qu'elle est bonne à rien et que c'est juste de la chair fraîche entre guillemets. Mmh. Et petit à petit, elle montre effectivement des qualités
de rédactrice,
mmh. de conceptrice, de publicitaire, qui font qu'elle monte en grade peu à peu, au prix de beaucoup de sacrifices et de difficultés. Mais c'est vraiment c'est une série qui commence autour des hommes et qui ne peut plus faire l'économie de la puissance des femmes et de leur émancipation qui permet aussi aux hommes eux-mêmes de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent et d'évoluer effectivement.
On a l'impression que les femmes sont celles qui ont compris le fonctionnement du nouveau monde et elles vont essayer effectivement de s'élever. Elles ont compris le fonctionnement des hommes. Il y a le personnage de la chef des secrétaires qui s'appelle Joan et dont on a l'impression qu'elle sait très bien où elle est. Et il me semble que les femmes incarnent une espèce de proposition de mutation et que la série leur fait porter ce rôle.
Oui, absolument. Alors, Joan Holloway, qui est l'autre personnage, enfin, il y en a trois. Il y a trois personnages féminins vraiment très forts. C'est Peggy, donc l'ancienne secrétaire devenue rédactrice. Joan, qui est, pareil, la chef des secrétaires, un peu, qui au départ est une superintendante qui peu à peu monte en grade dans l'agence et qui, elle aussi, par ses choix de vie personnels, dans sa vie amoureuse, dans sa vie familiale, qui prend de vraies décisions. Il y a une forme de féminisme à l'œuvre peu à peu dans la série. Et il y a aussi Betty Draper, qui est donc l'épouse trompée de Don Draper, qui finalement va... qui, elle, au départ, est une femme au foyer totalement écrasée par son mari et par le modèle familial un peu américain des années 50, et qui va peu à peu se rebeller et demander le divorce, notamment Ben pareil, à la fin de la saison 3, en fait, c'est l'épisode où Kennedy meurt. C'est là qu'elle prend conscience que ça peut plus durer, en fait, ce mariage un peu cataclysmique avec Don Draper qui la trompe allègrement. Et voilà, en demandant le divorce, en obtenant ce divorce, et en refaisant sa vie ensuite, même si les deux restent en contact, puisqu'ils ont des enfants notamment, il y a une forme d'accomplissement de ce personnage de Betty, effectivement.
Vous indiquez, Damien Leblanc, dans des moments où vous passez à l'analyse filmique, parce qu'on oublie aussi que les séries, c'est du matériau filmique, que ces évolutions, elles s'incarnent dans la mise en scène elle-même. Alors, comment ça se marque, ces évolutions culturelles, économiques, dans un travail formel?
Matthew Weiner, donc le créateur de la série, on a un petit peu parlé, c'est que dans les premières saisons, qui sont celles d'un écrasement et qui sont aussi celles où il y a beaucoup, où le pouvoir passe beaucoup par la parole, par une domination un peu par la parole des hommes, il y a beaucoup en fait de contre-plongée, c'est-à-dire que les personnages sont vus d'en bas,
en dessous,
et c'est ce que dit Matthew Weiner, c'est-à-dire que ça permettait de donner un aspect glamour et en même temps de pas trop se préoccuper de ce qui se passait autour dans l'image. C'était voilà, on mettait au centre vraiment ces personnages de publicitaires tout puissants. Et peu à peu, ces contre-plongées ont un peu été abandonnées dans les saisons 4, 5, où là, notamment dans la saison 4, je trouve que les arrière-plans prennent beaucoup plus d'importance. Et c'est comme si la hiérarchie, en fait, évoluait peu à peu et le monde autour de ces publicitaires dominants est en train de changer, leur pouvoir est en train de vaciller. Et ça se manifeste par beaucoup de petites scénettes, de petits événements burlesques qui se passent dans leur dos sans qu'ils le voient. Et voilà, et on passe de ces contre-plongées écrasantes des premières saisons et aussi d'une influence aussi du cinéma américain des années 50 à peu à peu des évolutions formelles, notamment les références de ça se met à être plus proche du cinéma de l'époque années 60, c'est-à-dire les films de Antonioni, de Polanski, tous ces films où ça devenait un peu plus libre, un peu plus pop dans le traitement de l'image, oui.
Ah, donc Matthew Weiner intègre même ce qui se passait à l'époque de sa fiction. On va écouter Don Draper qui évoque le projecteur de diapositive de Kodak. C'est dans le 13e épisode de la première saison.
Teddy m'a appris qu'en grec, nostalgie signifiait littéralement une blessure ancienne qui fait toujours mal. C'est un pincement au cœur, teinté de regret. Est bien plus puissant qu'un simple souvenir. Grâce à cette machine, on ne vole pas dans l'espace. On remonte le temps. D'une pression, on recule. On avance. Elle nous ouvre les portes d'une époque perdue que l'on rêve de retrouver. Cette chose n'est pas une roue. C'est un carrousel. Grâce à lui, on voyage comme un enfant sur un manège. On tourne et on tourne, et on retourne au point de départ. Ce lieu magique où on se savait aimé.
La valeur de l'homme, Mad Men, les nouvelles routes de l'Amérique. Nous sommes en compagnie de Damien Leblanc. Qu'est-ce que c'est que cet extrait? Alors, c'est Don Draper, il ne fait pas que présenter un carrousel de Kodak, où on regardait des diapositives. Qu'est-ce qu'il fait?
Alors, effectivement, ça, c'est une séquence très connue. C'est dans le dernier épisode de la première saison. Et, en fait, l'agent Sterling Cooper reçoit des potentiels futurs clients pour essayer de les convaincre. Ce qu'on appelle présentation publicitaire, il doit convaincre Kodak qui cherche à vendre une machine à diapositive que ce sont eux qui font la meilleure publicité et que donc c'est Don Draper qui doit montrer qu'il peut faire une fantastique publicité pour Kodak. Et ce qui est intéressant, c'est que au début de cet extrait, là, on l'a pas entendu, mais il raconte un peu aux clients comment ça fonctionne la publicité. Il dit en fait, vous voulez axer votre publicité sur la technologie, sur la force technologique, mais ça n'intéresse pas les consommateurs. Eux, ils veulent un lien émotionnel avec le produit. Donc il faut créer de l'émotion. Donc il faut de la nouveauté. Pour un, le plus important dans la publicité, c'est l'idée de nouveauté. Et donc, il leur fait tout un laïus sur comment fonctionne la publicité. Et là, il se lance dans sa présentation qui est axée sur la nostalgie. Et en fait, ce qui est très fort à l'image, c'est que tout en passant des diapositives, en fait, ce sont des diapositives de la propre famille de Don Draper. Et ça, les clients ne le savent peut-être pas, mais en tout cas, pendant qu'il parle de la nostalgie et du sentiment de voyage dans le passé que charrient les diapositives, on voit à l'image la femme, les enfants de Don Draper, dont il est très loin en fait dans toute la saison 1. C'est-à-dire qu'on voit qu'il a un peu du mal à être proche de ses enfants, que son couple ne fonctionne pas très bien. Donc il y a des images de bonheur familial, mais dont on sait, nous, qu'elles sont déjà un peu révolues. Surtout quand on sait qu'après, en saison 3, il y aura un divorce, une séparation. Et donc, ce qui est intéressant avec cette séquence, c'est que tout en étant convaincant, puisque finalement, c'est bien l'agence qui empochera le contrat, tout en faisant une présentation publicitaire magique et virtuose, Don Draper parle de lui et parle un peu de la série Mad Men, qui elle-même est un voyage dans le temps mélancolique, où on veut revenir à une origine. Et c'est un peu ce que fait Matthew Weiner avec cette série, c'est-à-dire qu'il revient aux années 60 dans lesquelles il est né, donc des années qu'il n'a pas vraiment connues, et sur lesquelles il porte un regard à la fois nostalgique et un peu réinventé, c'est-à-dire qu'il injecte beaucoup d'éléments personnels dans sa peinture des années 60, et voilà, et dans ce très bel extrait, on a un peu à la fois un portrait des failles de Don Draper et une espèce de métaphore sur la façon dont fonctionne la série et dont elle essaye de réinjecter de l'émotion dans un passé de l'Amérique, qui est celui des années 60.
On a passé l'extrait en version française, évidemment ce n'est pas la voix de l'acteur lui-même, John Hamm. Alors un mot peut-être ou quelques mots quand même sur ce personnage assez fabuleux qu'est Don Draper. On a rarement vu un personnage pareil. Il est à la fois nostalgique, il est perdu, il se débat avec son identité, il boit, c'est un homme à femme, mais ça n'a pas l'air de le combler plus que ça. Damien Leblanc, Don Draper, pour le caractériser, parce que c'est quand même l'incarnation de la série elle-même.
Mais alors c'est vrai qu'au départ, dans les premières saisons, il a été caractérisé comme un anti-héros, un peu comme la fiction américaine. Les séries américaines au début des années 2000 en produisaient beaucoup. Donc il y a eu Tony Soprano, il y a eu un peu Six Feet Under à sa manière. Et donc c'est vraiment ce personnage de héros d'une série, mais qui a des failles, qui a des fêlures. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est ça, c'est que c'est... Au départ, il est présenté comme un homme puissant qui incarne le pouvoir de ses publicitaires dans le rêve américain, en fait, qui a une influence sur le mode de vie, le mode de consommation de l'Amérique de l'époque, mais qui en fait qui peu à peu va nous apparaître comme quelqu'un de totalement dépassé et qui effectivement, c'est ça, c'est qu'au début de la série, il est déjà un peu entre guillemets mort, quoi, c'est-à-dire qu'il a son identité initiale, qui était Dick Whitman, n'existe plus. Il a volé une identité d'un lieutenant. Et donc, il n'est pas lui-même. Et donc, c'est censé être dans le mythe de la réussite américaine, hein, quelque chose parfois de positif, de réussir à se réinventer pour réussir sa vie. Mais lui, c'est vécu comme une forme d'échec, de déprime, parce qu'il ne peut pas dire la vérité à son entourage. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant que le monde autour va avancer, évoluer, lui va essayer de se rattacher à ce train de la modernité, mais sans jamais vraiment y arriver, en étant toujours, il a toujours l'air en fait d'habiter une autre époque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de flashbacks
dans son enfance difficile,
exactement,
ouais, rurale.
flashbacks sur son enfance rurale, parce qu'il, ouais. il a connu la Grande Dépression de 29, donc c'est quand même un personnage qui incarne beaucoup de choses de l'histoire de l'Amérique du 20e siècle. Donc il a connu la Grande Dépression, ensuite il a vu les années de guerre, et maintenant il est comme bloqué, c'est-à-dire qu'il sait plus dans quelle époque il habite. Et nous, en tant que spectateurs, on est assez fascinés par ce personnage qui paraît à la fois très moderne, qui pourrait être un businessman des années 2010, avec son costume impeccable et ses, ces tours new-yorkaises, mais qui en même temps a vraiment l'air d'être égaré dans ses relations sentimentales, affectives, même dans son rapport à l'histoire américaine. Il a jamais l'air vraiment ému par ce qui se passe.
On dirait qu'il traverse, on lui annonce tous les assassinats terribles, politiques de l'époque, voire la guerre du Vietnam aussi, et puis il a l'air de traverser tout ça, sans être dans une empathie, il n'a pas l'air ému.
Oui, il vit toujours les choses à distance. Il a toujours l'air en parfait décalage avec les émotions et les mutations de son époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que à la fin de la série, alors on va peut-être pas révéler exactement comment ça se termine, mais on se rend compte que effectivement, malgré tous les drames intimes qu'il vit, notamment le fait qu'il a beaucoup moins d'influence au sein de l'entreprise publicitaire, à la fin, il retombe, si on veut, sur ses pieds, puisque il embrasse à sa manière la modernité un peu hippie, un peu des années 70, en réussissant in extremis à raccrocher un peu le wagon, et ça passe notamment par la publicité. C'est-à-dire que alors que son influence à tous les niveaux de père de famille, de mentor, de publicitaire ne cesse de s'amoindrir dans la série, à la fin on se demande si finalement c'est pas le publicitaire le plus génial de sa génération et s'il n'a pas tout compris, parce que voilà, il y a un spot final de publicité qui conclut la série dont on peut imaginer que Don Draper est l'inventeur, comme s'il avait fallu passer par tous ces drames et toutes ces déceptions pour devenir un homme qui ensuite dans les années 70 et 80 sera totalement à sa place, et c'est peut-être un futur Reaganien, peut-être que dans les années 80 qu'on ne voit pas évidemment dans la série, peut-être que Don Draper sera totalement à l'aise, aura su se réinventer une énième fois pour comprendre l'Amérique qui vient après, quoi.
Il se sauve peut-être. Moi j'ai trouvé que c'était un personnage, vous l'avez dit, mais qui est très absent à lui-même. Il y a deux trois petites séquences un peu fantastiques. Il y a une séquence où il parle assez longuement à un homme dans un hôpital, et quand il recroise cet homme, il ne le reconnaît pas, l'homme ne reconnaît pas Don Draper. Il y a une scène où il appuie pour appeler l'ascenseur, l'ascenseur s'ouvre et il n'y a rien, il y a une cage vide. Est-ce qu'il y a quand même, peut-être chez Weiner, très discrètement, par petites touches, l'idée de dire que cet homme-là, il est presque plus là pendant une grande partie de la série ?
Oui, effectivement, il y a vraiment ce frisson parfois du vertige, du néant, de l'absence à soi-même, et ça passe à la fois par le portrait, là encore c'est une tradition littéraire, c'est-à-dire qu'il y a aussi Kerouac, il y a Fitzgerald, tout ça, et ça vient aussi des influences esthétiques de Matthew Weiner qui brasse plein de choses. Il aime autant le cinéma européen que le cinéma américain, que ses réalisateurs souvent se réfèrent à Twin Peaks ou à un peu au fantastique, et il y a toutes ces influences qui effectivement donnent lieu souvent à des moments d'étrangeté, de vertige, et notamment une des influences sur lesquelles tout le monde s'est mis d'accord dans l'équipe artistique de Mad Men, c'était La mort aux trousses de Hitchcock, où c'est l'histoire d'un publicitaire qui est pris pour un espion, et donc un homme qui est pris pour ce qu'il n'est pas. Et même si Mad Men brasse énormément d'influences, il y a des références à la planète des singes, au parapluie de Cherbourg.
Oui, Rosemary's Baby.
Exactement. On revient toujours un peu à Hitchcock, qui en 59 a réalisé Vertigo, donc un film sur le vertige. Et on a ça chez Don Draper, c'est-à-dire qui est-il vraiment, n'est-il pas qu'un rêve? D'ailleurs, le générique dont on parlait au début a été conçu comme une sorte de rêve. C'est un peu le cauchemar de Don Draper qui s'imagine tomber, chuter, pour finalement peut-être se relever. Son identité jusqu'au bout reste assez vacillante et assez fascinante en effet.
Merci beaucoup Damien Leblanc, cette émission s'achève. Je pense qu'elle aura donné envie à ceux qui n'ont pas encore vu la série de la voir, et évidemment de lire votre livre, et pour ceux qui l'ont vu, de lire aussi votre livre et de vous entendre. Donc je recommande chaleureusement la lecture de votre ouvrage, Des Révolutions de Mad Men, qui est sorti aux éditions Playlist Society en 2017. Je signale aussi qu'il y a un contenu additionnel au livre sur le site de la maison d'édition. Merci à Emmanuel Demisco à la réalisation. Cette émission sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. On se retrouve, je l'espère, après l'été pour une nouvelle saison de La Valeur de l'Homme. À bientôt.
1, 2, 3, 4. Zoo. mon Dieu, qu'ils sont doux. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zou. Zoubi zou. Le bruit des bisous. Dans les buissons, sous le ciel du mois, en doux, les amoureux glissent à pas de loup. Dire zou.